et avec nous en prière pour que les instructions de Dieu soient avec nous. Amen. Peut-être que je devrais juste oublier mon sermon et vous dire une chose. Mais rappelez-vous simplement, les périodes de transition sont bonnes. Dieu opère des transitions dans nos vies si nous grandissons, ce qui devrait être le cas dans la vie chrétienne, une croissance jour par jour, moment par moment. Si nous grandissions, alors il y a tout le temps du changement. Dites changement.
C'est bon, n'est-ce pas?
C'est bon, le changement. Ouais. C'est difficile parfois, oui, mais le changement, c'est bien. Ça nous permet de nous ajuster, d'analyser ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Quand nous sommes dans un voyage avec Jésus, quand l'Église est en route avec Jésus, en train de le suivre, en lui faisant confiance, en faisant ce qu'il nous appelle à faire ici, est-ce que vous allez faire ici bientôt ? Mais je pense nous, mais c'est vous bientôt quand je ne serai plus avec vous. Il y aura toujours des changements, des ajustements, et c'est bien. Parce qu'on ne veut pas le statu quo, que les choses restent les mêmes. Dites ça avec moi, je ne veux pas que les choses restent pareilles. Personne ne répète, quoi. C'est important quand vous commencez à prendre ce changement à bras-le-corps. Dieu fait des choses incroyables, mieux encore que ce qu'on pourrait imaginer. Amen. Alors Dieu a quelque chose de spécial en stock pour vous, pour Tikos, et nous sommes vraiment contents de ça. Alors, maintenant le deuxième sermon. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de faire quelque chose de différent à la fin du culte, comme on va le combiner avec la Sainte Cène, on va célébrer qui est le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. Et j'espère que chacun d'entre vous va renouveler son engagement auprès de lui et à le suivre, son engagement en tant que, en lui redisant qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur. Mais je voudrais commencer juste par une prière. Peut-on faire ça? Et je vais vous demander de prier pour la personne à côté de vous, juste dans votre cœur, en silence, priez pour la personne à côté de vous, que Dieu fasse de nouvelles choses dans ce cœur, dans cette vie. Et nous voulons ça pour nous-mêmes, mais remettons-lui notre voisin, que Dieu fasse une chose nouvelle aujourd'hui. Abba, je te remercie pour cela, pour ta fidélité, parce que tu es là, et j'ai confiance. Je pense que nous sommes tous en route avec toi, nous allons commencer pour certains un chemin avec toi. Merci parce que tu nous aimes tous. Merci pour ce que tu vas dire à nos cœurs aujourd'hui. Je te demande que tu mettes tes anges autour de cette église, et que tu les mettes en garde devant la porte et partout, pour que nous puissions être concentrés à 100% sur ce que tu veux nous dire ce matin. Merci pour ta grande fidélité. Et nous te célébrons aujourd'hui, et nous voulons marcher avec toi, mieux que jamais auparavant. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, nous revenons à notre passage que vous avez bien sûr mémorisé. Vous pouvez le réciter sans même me regarder. Amen. Je vais le lire. Matthieu 6, verset 5. Donc, je lis la première et on lira tous la deuxième ensemble. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
Père, pardonne-nous nos péchés ou nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien d'entre vous aimez vraiment cette partie de la prière plus que d'autres? Pourquoi vous ne levez pas la main? Combien d'entre vous diraient que vous êtes vraiment des personnes qui pardonnent? Personne ne lève la main? Est-ce que ça ne nous révèle pas quelque chose sur le cœur humain? Ça peut être très difficile de pardonner, n'est-ce pas? Jésus nous donne cette partie de la prière pour que ce soit un rappel régulier de quelque chose, de quatre choses. Quatre choses qu'il veut renouveler dans notre esprit et dans nos cœurs. Premièrement, cela nous rappelle de quatre réalités, quatre réalités clés du péché. Premièrement, nous péchons.
1 John reminds us, if we claim to be without sin, we're just deceiving ourselves.
On lit que si on prétend être sans péché, on est des menteurs.
Of course, then we need forgiveness.
Deuxième chose, le fait que nous avons besoin du pardon. Nous ne sommes pas parfaits. En d'autres termes, dis ça à la personne à côté de vous. Tu n'es pas parfait.
Boy, that was loud.
Ah ça, c'est parti du cœur.
Now you know what I'm asking you to say to the person next to you.
Savez ce que je vais vous dire de dire à l'autre personne? Je ne suis pas parfait.
That was not very loud.
Ça, c'était pas aussi enthousiaste.
Thirdly,
troisièmement,
we have hurt God and others.
Nous avons blessé Dieu et d'autres personnes.
We have a choice.
Et nous avons un choix. Comment nous allons gérer cela?
And fourth.
Et quatrièmement, d'autres nous ont blessés. Et nous avons le choix de comment nous allons réagir. Quatre choses clés que nous devons nous rappeler alors que nous faisons cette prière. Alors, Jésus ouvre une invitation incroyable
à
comment gérer ce péché qui peut nous intoxiquer dans nos vies chaque jour et qui peut nous détruire si on ne fait pas attention. Et nous devons prier pour cela plus encore que nous prions pour notre pain quotidien.
Amen.
Alors, deuxièmement, cette partie de la prière nous rappelle aussi le côté où on reçoit le pardon. Ça, on aime bien sûr. Ça nous aide à être juste aux yeux de Dieu et avec les autres. Donc, pour qu'il n'y ait rien qui puisse venir entre nous et Dieu, entre cette relation. N'est-ce pas merveilleux que Dieu permette qu'il n'y ait plus rien entre lui et nous pour que la relation soit restaurée, que notre imperfection et sa perfection soient compatibles. Nos péchés sont couverts pour qu'on puisse aller aussi près de lui que possible. Dieu veut être proche de nous. Ce n'est pas incroyable qu'il soit comme ça? Et voilà, c'est le cas. Il veut que nous soyons aussi peu de péchés que possible pour que nous soyons proches de lui. Mais troisièmement, la prière nous rappelle aussi le côté du don du pardon. Et là, ça devient un peu plus intime, c'est un peu plus délicat. Et c'est important ou pas? Oui, regardez le langage. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais vraiment, littéralement, ça dit pardonne-nous nos offenses comme nous sommes en train de pardonner ces autres pécheurs, ces autres qui nous ont blessés. Il y a un sens d'une chose qui est en continu, continuelle, une pratique, un usage, une habitude à prendre, une coutume. dans Marc 11,
a chapter very special to Kathy and me,
un chapitre qui est spécial pour Cathy et moi,
son was developing in the womb,
pendant que notre fils était en train de grandir, pendant la grossesse de Cathy, il y avait eu des problèmes. Donc ça, c'était un verset qui nous a vraiment marqué. Il y avait des problèmes potentiels. Et nous, Dieu nous a dit de prier et de bouger les montagnes. Et Jésus a dit, et donc il parlait de bouger les montagnes.
Praying for moving a mountain in your life, if you hold anything against anyone, what? Forgive him.
Et lorsque vous priez,
so that what? Your Father in heaven may
et lorsque vous êtes debout, vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes.
But if you do not forgive, neither will your Father who
en gros, ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est très direct.
C'est
presque comme une insulte, mais c'est très important. C'est vraiment, ça doit nous choquer. Donc, en plein milieu d'un passage qui dit qu'il faut croire à de grandes choses, bouger les montagnes avec la foi, Jésus vous dit, si vous ne pardonnez pas là où vous devez pardonner, oubliez les montagnes, elles ne bougeront pas.
Ce
n'est pas ça le plus important. Vous vous souvenez, vous connaissez probablement cette histoire dans Matthieu 18 du roi Jean-Jacques. Vous connaissez le roi Jean-Jacques?
Jean-Jacques,
lève ta main. Ah, il est là. Vous ne saviez pas qu'il y avait un roi au milieu de nous. Jean-Jacques est un homme très influent, puissant, riche, tout ce que vous voulez. Et il y avait un de ses serviteurs, son nom était Patrice. En fait, il est assis à côté de lui. Patrice, lève la main, qu'il puisse te voir. Vous avez rencontré déjà Patrice?
Et
une chose intéressante s'est passée entre eux, parce que Patrice s'est retrouvé à devoir de l'argent au roi. 3 milliards d'euros. C'est l'équivalent dans l'histoire. Hein. L'équivalent dans l'histoire, il lui doit 3 milliards. Combien d'entre vous aimeraient bien devoir à quelqu'un 3 milliards d'euros? Non, Patrice, ne gâche pas dans mon histoire. Mais c'est un bon serviteur. Alors, que fait Patrice? Vous imaginez ce qu'il doit penser. Ah, comment est-ce que je vais le rembourser? Comment est-ce que je vais rembourser? Alors il va voir Jean-Jacques, le roi, et lui dit, je vais faire de mon mieux, je vais payer tout ce que je te dois, mais sois patient. Vous vous souvenez de l'histoire? S'il te plaît, s'il te plaît. Et qu'a fait le roi? Il a eu de la compassion, il a été touché par la situation et la sincérité de Patrice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je te pardonne, j'efface tes dettes. Waouh, comment vous sentiriez? Patrice s'est senti plutôt bien. Hein, vous devriez voir le sourire sur son visage. Oui, ce sourire sur son visage. Waouh, c'est génial. C'est génial. Le cœur de ce roi et le cœur de ce serviteur maintenant sont libérés. Ils se sentent tellement libres. C'est un super sentiment de grâce sur sa vie. Et tout d'un coup, Patrice se rappelle que Ian lui doit une centaine d'euros. Et que fait Patrice? Est-ce qu'il va bénir Ian? Non, il attrape Ian par le col. Non, tu n'as pas besoin de l'attraper par le col. Et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit à Ian? Rembourse-moi ce que tu me dois. Et Ian dit, qu'est-ce qu'il dit Ian? Mais sois patient avec moi, sois patient s'il te plaît. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre, je te rembourserai. Et que répond Patrice? Non, tu me payes maintenant, ou alors je t'envoie en prison. Ce qu'il fit dans l'histoire, tu resteras en prison et tu resteras en prison jusqu'à ce que tu aies payé ta dette. Alors quel est le bon, quel est le gentil dans l'histoire? C'est celui qui a été miséricordieux. Le cœur du roi a été incroyable. Mais Patrice, il a vraiment un problème. Ne sortez pas ce que je viens de dire du contexte, hein, mais vous voyez bien le problème. N'oublions-nous pas parfois qu'on a tout ce qu'on nous a pardonné? Et pourtant, il y a des moments où on va aller vers quelqu'un en lui disant « Mais qu'est-ce qui cloche avec toi? Tu m'as fait du mal, tu m'as blessé, tu me dois quelque chose. » Des choses toutes petites en plus. Et quand on y pense, c'est quand même bizarre. On est tous coupables. C'est arrogant de faire ça. Il y a des conséquences graves au fait de ne pas pardonner. Parce que quand on y pense, chacun d'entre nous qui a goûté la compassion et le pardon de Dieu ne peut pas ne pas pardonner. Vous laissez Dieu se charger des choses qui vous dépassent si besoin, mais laissez-les à ses pieds. Regardez ce que Dieu a fait pour vous et laissez le reste à ses pieds. Mais on remarque dans le Matthieu chapitre 18, 34, l'image de ce que ce roi a fait et de l'image de Patrice, quand le roi a compris ce que Patrice avait fait, après, il a dit, mais tu es une personne mauvaise, tu n'as pas pardonné. Alors maintenant, je ne te pardonne pas non plus. Et il a envoyé en prison jusqu'à ce qu'il paye ses 3 milliards d'euros, ce qui est très très long. Mais regardez les mots. Dans le verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est facile à lire, mais il faut bien repenser aux trois derniers mots qu'on oublie trop souvent. De tout son cœur. Si on ne veut pas aimer correctement et pardonner les autres, comme notre Père l'a fait pour nous à travers son Fils, il va probablement permettre que l'on soit torturé d'une manière ou d'une autre, hein, si je me permets ce mot. Et il va peut-être nous permettre de souffrir à cause de notre égoïsme. Alors, avec l'espérance qu'on se repente et qu'on reconnaisse nos fautes et qu'on puisse vraiment apprécier sa miséricorde, plus encore qu'avant, que sa grâce travaille en nous et à travers nous pour toucher les autres, pour qu'il reçoive la gloire et que sa volonté soit faite. Une pensée intéressante, est-ce que vous avez déjà pensé, moi je me suis déjà posé la question, vous avez déjà pensé que quand quelqu'un que vous connaissez prie cette partie de la prière, peut-être qu'ils ont un problème avec vous et qu'ils ont du mal à vous pardonner, ou moi? Alors quand nous prions cette partie de la prière du Notre Père, il faut vraiment qu'on se rappelle que être pardonné, c'est pardonner. Dites-le avec moi. Être pardonné, c'est pardonner. Nous sommes appelés, Tikos est appelé, dans nos vies individuelles aussi, à créer une culture du pardon et de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ignore toutes les choses qui sont mauvaises. On nous donne des instructions à ce sujet, comment gérer les problèmes dans la parole. Mais il y a des choses, il faut laisser aller. Et Dieu s'en charge, et il s'en charge bien mieux que nous. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous pardonnons? Jésus l'a fait, c'est simple. Il y a quelque chose que nous devons apprendre. Avec sa vie en nous, ça devrait être naturel pour nous de pardonner. Mais faites attention à quelque chose. Pardonner ne veut pas dire que vous avez envie de pardonner. Combien d'entre vous avez vraiment eu envie de pardonner? Vous dire, ah oui, j'ai trop hâte de le pardonner, ah, c'est trop chouette. Pour le libérer. Non, c'est dur. Pas souvent, hein, ça ne se passe pas comme ça. Mais on peut dire honnêtement à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de pardonner, j'arrive pas à avoir envie de pardonner. On commence avec l'honnêteté. Hein, David l'a fait, il y a plein de psaumes qui voient où il a été honnête avec Dieu, et puis après il avait un processus. On peut commencer en disant à Dieu, « J'ai pas vraiment envie de pardonner. » Mais parce que vous savez que Dieu veut que vous pardonniez, vous pouvez lui dire, « Mais j'ai envie d'avoir envie. » Vous pouvez lui dire, voilà, même si c'est encore plus dur, vous pouvez lui dire, « J'ai envie d'avoir envie, d'avoir envie. » Voilà, « J'ai envie d'avoir envie, d'avoir envie, d'avoir envie de pardonner. » Mais c'est un bon début. C'est le début. C'est le processus est enclenché. Après, vous pouvez progresser et vous verrez ce qu'il va faire. Des choses incroyables. Pensez à cela de cette manière. Si nous ne pardonnons pas les autres, où est le point clé là ? Ce que nous pensons que nous avons besoin, c'est parce que on pense qu'à nous. C'est parce qu'on pense que nous méritons mieux. Nous méritons des choses. Mais si on pardonne aux autres, à ce moment-là, l'accent est sur les autres. Et c'est sa grâce qui agit. C'est une chose puissante. Mais il y a d'autres raisons de donner ce pardon. Il y a des raisons qui sont plus égoïstes, mais il y a des raisons qui sont quand même là. C'est pour éviter déjà de faire le travail de Satan. Combien d'entre nous voulons que Satan nous utilise ? Non. Nous ne voulons pas être un objet dans les mains du diable, alors on ne veut pas garder rancune. Parce que si on garde rancune, on ouvre la porte à Satan et à toutes les mauvaises choses. Ça nous aide à rester en forme, à rester en bonne santé, parce que garder rancune, ça peut être dangereux pour la santé. Ça crée des racines d'amertume. On lit dans Hébreux 12:15, mais ça peut amener des problèmes de santé, de pression artérielle, de problèmes cardiaques, et plein de choses. Est-ce que ça vous encourage à pardonner ? Toutes ces choses doivent nous faire réfléchir. Peut-être même si on doit être un peu égoïste, mais pardonner pour ces raisons-là, on peut y penser. Mais il y a autre chose à laquelle on ne pense peut-être pas. Les problèmes de justice. Pensez-y. Est-ce qu'un chrétien du Soudan du Sud peut pardonner le gouvernement du Soudan d'avoir assassiné et abusé d'autres notre partie du peuple soudanais, et ils n'ont même pas admis de faire ça. Est-ce que ces gens-là peuvent pardonner ? Et alors, et les Arméniens, est-ce qu'ils peuvent oublier les Turcs pour le génocide des Arméniens ? Alors que les Turcs sont encore en train de nier ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mettez-vous dans leur position, à leur place. Et pourtant, on entend les mots de Jésus à la croix. Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce cœur-là qu'il faut avoir. Le pardon, ce n'est pas la chose faible à faire. Le pardon, c'est se montrer fort. C'est puissant. Ça montre une force incroyable et une foi. Jésus, le cri, la prière, la supplication de Jésus, qu'elle soit la nôtre aussi, il faut dire avec force, non, je choisis de pardonner. Je choisis de ne pas être en colère. Imaginez un Arménien qui dit ça. Je suis peut-être en colère, mais je vais laisser cela de côté pour pardonner. Pour que mon pardon soit plus efficace. Et une histoire de l'église à laquelle on était aux États-Unis, ils font cela, ils pratiquent cela. Ils aident les personnes au sud du Soudan et ils aident ces gens à avoir de l'espoir, à se réconcilier entre des tribus guerrières. Et ils essayent d'apporter la paix pour qu'ils commencent à voir ce que la grâce de Dieu fait s'il lui laisse une chance. Et c'est incroyable. Une chose puissante, encore une fois. Merci Seigneur pour ce que tu fais là-bas. Mais quatrièmement, la quatrième partie ici, et c'est là que nous allons conclure ce matin. Cette partie de notre Père nous rappelle de notre appel à mourir. Dites-le à la personne à côté de vous. Tu devrais être mort. Pourquoi est-ce que tu es vivant? Rappelez-vous, on s'est demandé ça déjà auparavant, puis il y a plusieurs semaines. Une fois de temps en temps, c'est bien de demander est-ce que tu es mort ou toujours pas? Et je voudrais vous faire une confession ce matin. Moi, ça fait un moment que je prie pour une Ferrari. Pourquoi vous rigolez? J'ai prié sincèrement pour une Ferrari. C'est ma femme qui rit le plus d'entre vous tous. Et je pense que je commence à voir que Dieu ne répond pas toujours aux prières. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à me dire qu'il ne répond pas toujours à toutes les prières. Je ne suis pas tout à fait convaincu quand même. Alors je me suis dit, tiens, j'ai une bonne idée. Cette semaine, je vais voler une Ferrari. Et alors, je demanderai à Dieu de me pardonner. Et tout sera bien, tout sera réglé. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Il est vraiment fou, ce mec. Et c'est pas incroyable parfois comment on imagine le péché, on pense au péché de manière si légère, si nonchalante. Ça ne peut pas être léger. On ne parle pas d'une grâce facile et pas chère. Non, on parle de choses puissantes. On ne peut pas traiter le péché comme ça et la grâce comme ça. Vous vous souvenez du voile dans le temple qui cachait le lieu très saint? Vous vous souvenez quand Dieu est mort, qu'il a finalement payé la pénalité, le prix de notre péché? Qu'est-ce qui s'est passé à ce voile immense, cette tapisserie immense qui a été cousue avec des fils d'or et qui devait peser, 500 kilos? C'était un gros, gros rideau, lourd, quand Jésus est mort. Vous vous souvenez, la terre a tremblé, le ciel s'est couvert, et c'est ce mouvement-là, ça a même affecté Dieu, et le voile s'est déchiré. Vous imaginez les prêtres qui étaient là-bas, qui voyaient que ce rideau se fendait en deux devant leurs yeux? Qu'est-ce que disait Dieu à ce moment-là? C'est fait, c'est accompli. Il n'y a plus rien maintenant entre vous et moi à cause de ce que mon fils vient de faire pour vous. Ça, c'est incroyable. Une image incroyable. Elle est vraiment et littéralement vraie. Mais voici notre challenge maintenant. Si nous ne faisons pas attention, nous recousons un autre voile. Nous cousons un autre voile entre nous et notre Père merveilleux. Et on ne le voit plus alors, ou alors on ne le voit plus du tout, on ne l'entend plus très bien ou plus du tout à cause de ce nouveau voile. A.W. Tozer le décrit bien en disant, en parlant du fil fin de notre vie centrée sur nous. On peut trouver une liste de très bonnes choses, quand on est autosuffisant, quand on s'aime soi-même, l'amour de soi, il y a plein de choses qui ne concernent que nous et qui s'entremêlent pour former un voile. Et avant qu'on s'en rende compte, on n'a plus beaucoup de contact avec notre Père. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons le laisser. Le laisser déchirer le voile de notre vie autocentrée. le déchirer en deux.
Time to die again.
Il est temps de mourir à nouveau, à nous-mêmes.
But this tearing down, this will hurt.
Mais cette déchirure du voile, ça va nous faire mal.
Yes, we'll suffer for a while.
C'est douloureux, oui, on va souffrir un petit peu. La mort, ça fait mal pendant quelques instants.
But then comes resurrection.
Mais ensuite vient la résurrection, la vie. Dans la résurrection, la douleur sera oubliée. Vous savez, vous, les femmes qui ont donné naissance à un enfant, la douleur, et ensuite, on oublie cette douleur. C'était quoi, cette douleur? Bon, elle est loin, à cause de la joie. Et c'est comme ça, les amis. Laissez-le vous faire passer à travers cette douleur pour que vous puissiez à nouveau être face à face avec lui, rien entre vous et lui. Vous êtes proche de Abba de nouveau. Et peut-être même plus encore qu'avant. Et nous voyons d'autres. Nous voyons d'autres qui ont besoin de pardon et nous pouvons alors leur donner ce que Dieu, ce que Abba nous a donné. Premièrement, le pardon. Alors, soyons très pratiques ce matin. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, je vais quand même prendre des notes pour ceux qui ne le font pas. C'est un moment entre vous et Dieu. On va combiner ça avec le moment de la Sainte Cène. Vous savez ce que l'on fait? Une fois par mois, quand nous célébrons notre temps autour du repas du Seigneur, on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous en donnant son corps et son sang pour nous, en prenant le péché du monde entier sur lui-même, pour nous, pour qu'il n'y ait plus rien entre une communion entre nous et Abba, si nous choisissons de recevoir cela et nous le suivons. Mais c'est aussi un moment où on laisse le Saint-Esprit analyser notre cœur. On parle à Abba à propos de nous et on lui dit « Abba, est-ce qu'il y a des choses que tu veux que j'entende sur moi? Des choses qui sont entre toi et moi? Est-ce qu'il y a un voile qui est en train d'être construit entre toi et moi? Est-ce qu'il faut déchirer ce voile? Abba, que ce soit fait. » On le laisse sonder nos cœurs. Donc, dans un instant, ce que je voudrais vous laisser faire, c'est venir devant cette table, prendre un marqueur et marquer quelque chose sur cette table qui signifie, qui représente quelque chose que Dieu vous met sur le cœur. Quelque chose qui a un rapport avec recevoir le pardon de sa part, quelque chose qu'on doit lui confesser, ou quelque chose qui a attrait à pardonner quelqu'un pour quelque chose. Ça peut être un point, ça peut être un X, ça peut être un cercle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui pour vous représentera cette chose-là pour vous. Quelque chose à pardonner, que Dieu doit vous pardonner ou que vous devez pardonner à quelqu'un. Faites ça sur la table. Et un peu plus sur ce voile. Et un peu plus tard, nous déchirerons ce voile ensemble, par la foi. Amen. Vous pouvez venir. Faites votre marque. Prenez du pain. Prenez les éléments et vous pouvez les manger devant la table à votre place. Ou faire l'inverse, mais je vous encourage à faire les deux. Si Dieu vous dit non, ne prends pas le repas de la Sainte Cène ce matin, alors attendez. Restez à votre place et laissez-le vous parler. Si vous pensez que vous avez juste à écrire sur le voile, alors faites-le, sentez-vous libre. Écoutez ce qu'il vous indique de faire. Ce qu'on veut faire ce matin, c'est rencontrer Dieu, là où il veut nous rencontrer, où que ce soit, et le laisser agir dans notre communauté. C'est bon, c'est clair? On va prier. Père, donne-nous ta grâce, nous te remercions pour cela. Nous ouvrons nos cœurs autant que nous pouvons. Nous les déversons devant toi et nous te disons, Père, parle-nous. Tout ce que nous devons savoir de toi. Si tu ne nous parles pas, c'est bien. Et si tu veux nous parler, que nous puissions entendre. Nous voulons que ce soit un moment où nous pouvons aller plus profondément avec toi, te connaître mieux et te laisser travailler dans nos vies d'une nouvelle manière. Alors merci, merci pour ta fidélité et ton grand amour pour nous. Et les gens de Dieu disent Amen.